Et aujourd'hui, en fait, dans ce web séminaire qui va durer à peu près 45 minutes, on va parler d'expérience client et surtout comment piloter l'expérience client. Donc, un petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver. Vous avez le chat à votre disposition sur la gauche. Vous pouvez poser vos questions et j'y répondrai soit directement lors du web séminaire, soit en fait à la fin, je prendrai toutes les questions en fait qui tomberont. Ce web séminaire sera enregistré. Vous pourrez avoir accès à l'enregistrement et vous aurez également accès aux slides. Je vous rappelle, si vous êtes intéressé par la relation client et surtout la gestion de l'écrit, qui est tout ce qui est chat, email, etc., on organise un autre web séminaire le 30 mars et là, vous pourrez avoir de nombreux conseils. Ça sera animé par un spécialiste de tout ce qui est écrit. Abonnez-vous aussi à notre chaîne Webikeo, notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous nos replays. Voilà. Et le dernier point, pour voir en grand écran toute la présentation PowerPoint, les slides et la démonstration, vous avez en fait le Zoom to Fit en bas à droite. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de voir le sommaire de cette présentation. Alors, moi, j'ai conçu ça en fait, grosso modo, en 5 étapes, hein. C'est les 5 étapes pour moi qui sont clés. On a un pilier à la base. Le pilier, c'est la qualité de service et le monitoring du service client. Parce que sans ça, en fait, on n'arrivera pas à avoir une expérience client extraordinaire si on ne fait pas le minimum. C'est comme dans une pyramide. Si la pyramide, en fait, n'a pas des bonnes fondations, on aura du mal à construire quelque chose qui va tenir debout. La deuxième chose, le deuxième point, c'est un petit peu une deuxième étape, c'est mesurer la satisfaction client à chaud. Alors, à quoi ça sert de mesurer la satisfaction à chaud? Ça permet tout simplement de rattraper une expérience client qui se serait mal passée. Le troisième point, c'est l'optimisation du parcours client. C'est-à-dire qu'on, grâce à la mesure des différents points de la relation client, on va pouvoir optimiser ce que j'appelle moi les points noirs, c'est-à-dire les éléments qui ne fonctionnent pas très bien, où les clients sont insatisfaits. Et là, on pourra mener des études de type CES, de type NPS ou CSAT, et je vous expliquerai ça juste après. Le dernier point, l'avant-dernier point plutôt, ce sera la mesure de la satisfaction client à froid. À froid, ça veut dire qu'en fait, on ne va pas rester dans le à chaud, juste après une interaction, après un achat, après un appel au service client, mais on va véritablement s'intéresser à l'avis du client de manière globale. Et ça servira donc bien sûr à savoir si on a un client qui est insatisfait, détecter l'insatisfaction cachée, et ça permettra aussi de se benchmarker, se comparer par rapport aux autres personnes du secteur d'activité. Et surtout d'avoir un baromètre dans le temps pour suivre en fait l'efficacité de ces actions. Et le dernier point, c'est, je n'avais pas la cerise sur le gâteau, mais en tout cas la pointe de la pyramide, c'est mettre en place une culture client. C'est une fois qu'on a commencé à mettre tout ça en place, on peut, bon bien sûr en parallèle, hein, on n'est pas obligé d'avoir tous ces éléments-là pour commencer à mettre en place une culture client, mais c'est véritablement se dire que les collaborateurs savent que le client est essentiel et que ça fait partie des priorités de l'entreprise. Et ça, je vous en parlerai juste après. Donc voilà comment on va dérouler le web séminaire, une structure en forme de pyramide avec grosso modo 3 étapes et donc 5 éléments clés. Voilà. Alors, la première chose, je vais faire un petit rappel sur pourquoi Eloquent, quelle est notre légitimité sur le sujet. Hein. Eloquent est expert de la relation client depuis 2001, donc ça fait déjà 15 ans, 16 ans même maintenant. On est spécialiste vraiment de la gestion globale de la relation client, à la fois en proposant des solutions de ce qu'on appelle nous le dialogue, c'est-à-dire la gestion des interactions avec les clients, que ça peut être du chat, ça peut être de l'email, ça peut être du centre d'appel, etc., etc. On a également des solutions d'écoute, c'est-à-dire des solutions d'enquête qui peuvent se faire par SMS, par email, par enquête vocale. On est également spécialiste de l'analyse sémantique automatisée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer des analyses sur des verbatim clients, des avis clients, et pouvoir détecter de l'insatisfaction cachée, des signaux faibles, etc. Et le dernier point, on est aussi spécialiste de l'expérience client. Et là, on fait plus un focus sur tout ce qui est mobilité avec l'application que je vais vous montrer aujourd'hui qui permet de monitorer le parcours client. Et encore, on a cette légitimité parce que donc, on est bien sûr éditeur de solutions, mais en plus, on a un cabinet d'études interne et on fait beaucoup d'accompagnement et de conseils pour aider les clients, à la fois sur une transition digitale, hein, transition numérique, mais également sur tout ce qui est conseils sur l'amélioration d'expérience client, les études, etc., etc. Et on a de nombreux clients. Là, je vous ai mis quelques références, hein, Auchan, Daimler, etc., etc. Voilà. Ça, c'était la partie présentation. Hop! Alors, Pourquoi en fait la gestion de la relation client doit évoluer et en quoi j'ai amélioré l'expérience client est différente maintenant de ce qu'il y avait il y a quelques années. Tout simplement parce qu'on arrive dans un nouveau monde, entre guillemets, de la relation client, où il y a beaucoup plus de digital et en même temps de relationnel. C'est vraiment un double mouvement. D'un côté, on va essayer d'automatiser un certain nombre de choses, mettre en place des process, etc. Et en même temps, il faut remettre de l'humain au centre, parce qu'on se rend compte que si on parle uniquement à des robots, eh bien forcément, le client ne s'y retrouve pas. La première chose à dire, c'est que les clients deviennent des data. Tout est de plus en plus numérique. On a des échanges qui sont faits par email, par SMS, etc., etc. C'est essentiel de pouvoir mesurer et échanger les données. On a de plus en plus de canaux de communication en même temps et il faut savoir les maîtriser. La deuxième chose, il faut savoir que les clients ne sont plus votre propriété exclusive. Nous, on le dit vraiment de plus en plus. Vos clients, vous devez apprendre à les garder. Par rapport à il y a quelques années où avoir sa base client chez soi, c'était compliqué pour un concurrent d'aller les chercher. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile puisqu'on est il est possible, par exemple, sur Facebook Ads, de retargeter les clients d'une marque. Il est possible de lister sur les médias sociaux aussi les clients d'une marque. Avec le référencement naturel, on peut être présent sur Google quand un de vos clients recherche des informations. Bref. Vos clients ne sont plus une propriété exclusive et donc il faut leur donner les raisons et surtout une très bonne raison de rester chez vous et de vous faire confiance. Le dernier point, c'est que les clients deviennent de vrais consommateurs. Là, j'ai mis une petite image de Superman. On voit très bien qu'ils veulent participer et veulent agir. Et surtout, en fait, quand ça ne va pas, ils le font savoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent le dire via les médias sociaux, ils peuvent le dire en vous envoyant des messages. Il est important de les écouter parce que si vous ne faites pas cela, c'est eux qui vont prendre la parole. Si vous ne leur laissez pas un espace de, je dirais pas défouloir, mais un espace de communication, ce qui va se passer, c'est que c'est eux qui vont prendre en main la relation et parfois, quand c'est pas maîtrisé, ça peut faire très très mal. Voilà. Le dernier point, c'est qu'on passe vraiment dans une relation, on est plus dans le relationnel, c'est-à-dire qu'on est plus dans le transactionnel. On va pas juste dire, tiens, le client il m'appelle ou il m'achète un produit, ça y est, c'est fini, jusqu'à la prochaine vente ou la prochaine interaction ou renouvellement de mon contrat. Je suis véritablement dans un domaine de relation où je dois voir si mon client est satisfait maintenant à un moment X plus 1, X plus 2, X plus 3. Parce que je dois pas attendre le moment du renouvellement pour me dire, tiens, le client, est-ce qu'il est satisfait ou pas. Je dois savoir avant pour faire du préventif, pour éviter que le client ne me quitte sans que je le sache. Puisqu'on sait, la plupart du temps, un client, il vous quittera sans rien dire, il passera à la concurrence parce qu'il est insatisfait ou parce qu'il n'a pas eu les réponses à ses questions. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences pour le service client? Tout simplement, dans la relation client, le service client devient un des piliers. Auparavant, en fait, le service client, c'était un petit peu le parent pauvre. On essayait de faire du low cost et faire un petit peu de l'abattage. Maintenant, en fait, la relation client devient vraiment importante parce que parfois, si le client a une mauvaise réponse, si on lui parle, on ne le prend pas bien en considération, il va pouvoir dire non, mais il se fout vraiment de moi dans telle entreprise, c'est fini, moi je ne travaille plus avec eux, de toute façon, j'ai eu des propositions des concurrents, etc., etc. Donc là, le service client devient une clé pour fidéliser. Il y a des grandes marques qui existent, comme par exemple Orange, qui ont mis l'expérience client au cœur de leur stratégie. C'est leur stratégie numéro un. Et on a aussi certains clients dans le B2B, comme je disais aussi, qui sont dans le domaine des télécoms, qui ont fait l'expérience client une priorité dans l'entreprise. Ils ont cartographié à peu près une dizaine de parcours client et à chaque fois il vérifie la satisfaction du client et si ça ne va pas, il y a une action derrière corrective du commercial ou du service client. Voilà. Le service client n'est plus là juste pour prendre des appels, mais pour vraiment faire en sorte que le client soit satisfait, qu'il ait une expérience au minimum à ses attentes. Et le service client doit aussi permettre de se différencier par rapport à ses concurrents. Et il faut véritablement changer sa manière de penser sa relation client. Alors, Aude, vous me demandez quelle marque de télécom B2B, je ne pourrais pas le dire, mais si vous venez le 19 avril au Salon Stratégie Client à Paris, vous verrez cette fameuse marque qui témoignera et qui a cartographié une dizaine de parcours clients et qui utilise pour cela notre outil d'enquête. Donc, je peux malheureusement pas vous en dire plus. Concernant la satisfaction client, il faut aussi se mettre du point de vue financier. On demande à améliorer la satisfaction, à mettre des moyens, mais il faut aussi que la direction se dise, OK, je vais investir du temps, je vais investir de l'argent, etc. Mais est-ce que c'est rentable? Et là, en fait, oui, je vous montrerai à la fin un petit calcul qui permet de calculer le ROI, le retour sur investissement de tout ce qui est études, tout ce qui est enquête de satisfaction. Mais on a également aux États-Unis un bon retour d'expérience avec l'AXI. C'est un indicateur qui est publié par toutes les grandes entreprises et qui permet de mesurer la satisfaction des clients. Et en fait, on voit bien avec ce graphique que les entreprises qui ont la plus grande satisfaction clients sont celles qui ont les meilleures performances financières. Donc quelque part, il y a un lien direct entre les gens qui sont très contents et après la satisfaction des clients. Voilà. Donc ça, c'était la partie introduction. Je vous propose maintenant de passer vraiment dans le concret. Alors l'étape numéro 0, le minimum vital, pour moi, c'est le minimum vital du service client. Pourquoi en fait? Tout simplement parce qu'auparavant, on se disait, ben voilà, le service client, bon ok, c'est un petit peu, le but, c'est de prendre des appels. Maintenant, c'est totalement différent. Puisqu'en fait, les clients ont des attentes qui sont beaucoup plus élevées. Alors comment ça, ils ont des attentes? C'est très simple. Le point de comparaison, ce n'est plus vous ou vos concurrents, c'est-à-dire qu'une marque, enfin, ou un client ne va pas vous comparer à une autre marque, mais il va se comparer par rapport à la meilleure expérience client qu'il ait eue. Par exemple, au niveau de la qualité de service, souvent les gens vont se dire, non mais chez Apple, là, je suis vraiment génial, j'ai envoyé mon téléphone, j'ai été tout de suite, on m'a tout de suite répondu, on m'a réparé le téléphone directement dans le magasin. Les gens vont se dire, tiens, je suis dans le domaine des assurances, je suis assuré aussi, par exemple, chez la Maif, ça se passe pas comme ça, on me répond immédiatement au téléphone, etc., etc. Donc les gens ne se comparent plus par rapport à. Enfin, ne font plus de comparaison par rapport à d'autres concurrents ou à un niveau de service moyen, mais vous comparent par rapport au meilleur de la classe. Donc en fait, c'est pour ça que les attentes sont beaucoup plus élevées au niveau des clients et ils veulent plus en fait avoir juste le minimum vital, ils veulent véritablement avoir une expérience client entre guillemets extraordinaire. Voilà. Donc la méthode en fait, ça va être tout simplement de monitorer et gérer la disponibilité opérationnelle de son centre d'appel ou de sa gestion multicanale. Ça peut être du chat, ça peut être de l'email, etc., etc. C'est important également de penser multicanal. Les gens veulent vous connecter enfin vous contacter à la fois par téléphone, par email, par chat, etc., etc. Il faut qu'ils aient la possibilité de ne pas avoir à répéter encore et encore et encore le même discours. Si vous avez à un moment donné mis un chat ou envoyé un email, il ne faut pas encore redemander au client qu'est-ce que vous avez fait, quel est votre problème, etc. Donc l'historisation et la personnalisation sont essentielles. Il faut savoir gérer l'historique multicanal. Il faut également faire attention à l'écrit, puisque je le disais juste auparavant, l'écrit revient de manière forte et parfois, quand on laisse une totale autonomie aux conseillers, on peut avoir des surprises sur la qualité des messages et bien sûr, ça nuit à l'image de l'entreprise. Même si on peut se dire, non mais c'est pas très grave, il y a des fautes d'orthographe dans le message, non, quelque part, c'est l'image de l'entreprise qui est importante. En même temps, il faut savoir donner plus d'autonomie aux entreprises. Alors, je vous donne deux, trois conseils, deux, trois cas pratiques. Le premier cas pratique, en fait, c'est une entreprise qui est dans le domaine du BTP, qui en fait fait beaucoup de prises d'appels et de commandes en fait par téléphone via son centre d'appel. Et bien, au début, il se dit, bon, voilà, c'est juste mon centre d'appel, je vais juste prendre des appels, c'est pas si important que ça. Et ils se sont rendu compte qu'en fait, bien sûr, la satisfaction et le temps d'attente avaient une vraie corrélation, c'est-à-dire plus vous attendez, moins vous êtes content et après, en plus, vous pouvez perdre des ventes. Donc, un de nos clients s'est mis comme ambition d'avoir un taux de joignabilité, un taux de décroché de 98%. Donc, il monitore en temps réel sa joignabilité. Et pour lui, en fait, il voit avec sa petite courbe graphique où ça pêche ou pas. Donc, il est véritablement dans cet esprit, tiens, je vais immédiatement pouvoir avoir un objectif et j'essaye de mettre les moyens pour ça avec un suivi dans le temps. On a un deuxième client qui est dans le domaine cette fois de tout ce qui est assurance, qui n'avait pas en fait auparavant un SVI ou une solution de centre d'appel, qui avait juste un numéro classique. Ils se rendaient compte qu'ils avaient une joignabilité de, je crois, de à peu près 70-78%, qui menait vraiment à une grosse insatisfaction client. Ils ont passé avec notre centre, solution de centre d'appel, ils sont passés à une joignabilité, je crois, de 90-95%. Et là, tout de suite, boum, ils ont vu la satisfaction client augmenter, moins de clients qui se plaignaient de l'attente, etc., etc. Puisqu'en fait, ils ont pu mettre en place des messages dissuasifs. S'il n'y a pas assez d'agents, si à certains moments, on propose aux personnes en fait d'être rappelées derrière. Voilà. Concernant l'autonomie des agents, je peux vous donner également deux exemples. Une entreprise en fait qui est dans le domaine de la banque, qui a en fait mis en place un système de gestes commerciaux. C'est-à-dire que les équipes du service client ont le droit à un porte-monnaie de 50 euros qu'ils peuvent utiliser pour gérer les litiges de manière totalement autonome. C'est-à-dire qu'ils ont comme ça ce petit volant d'autonomie. Et grâce à ça, en fait, ça a donné non seulement de l'autonomie et de la confiance en soi aux équipes qui sont en face des clients. Donc en fait, eux, ils se sentent un petit peu plus investis dans leur mission. C'est plus dire ah non, mais je ne peux pas décider, c'est le siège, etc. Mais en plus, en fait, ben, le client voit qu'il peut avoir une réponse immédiatement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là, les agents qui sont en face des clients, ont commencé en fait à gérer un petit peu cette cagnotte, un petit peu comme leur argent. Ça n'a pas été dépensé n'importe comment et ça a été vraiment dépensé de manière intelligente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ils ont fait un calcul entre le coût justement de cette mesure-là et l'économie sur les litiges. Et ils ont économisé plusieurs centaines de milliers d'euros sur les litiges clients grâce à cette politique-là. Un autre exemple, un client qui est dans le domaine des transports a mis aussi un principe là-dessus avec la possibilité d'accorder des remises jusqu'à un certain montant. Et ils ont se rendu compte que pour 1 euro investi, ils arrivaient à faire 1 euro et quelques, 1 euro 50 ou 1 euro 40, je crois, de chiffre d'affaires en plus. Donc en fait, l'autonomie comme ça que l'on peut donner aux conseillers via un catalogue de gestes commerciaux qui sont maîtrisés, qui permettent tout de suite, 1, d'améliorer la satisfaction, 2, d'avoir de l'autonomie au niveau du service client. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de limiter la robotisation, essayer de remettre de l'humain dedans. Les messages automatiques, c'est pas mal, mais il faut toujours qu'il y ait derrière quelque chose. Par exemple, chez nous, sur le chat, hein, si vous, alors là, le chat, il est éteint actuellement, mais si vous êtes sur le chat, il y a un premier message qui est automatique, et ensuite, juste derrière, bah, c'est un opérateur, ça peut être moi, ça peut être mes collègues qui répond. Voilà. L'autre point, c'est également de laisser le client chercher ses propres solutions. Nous, on le voit avec notre solution de gestion des interactions clients. De plus en plus de clients veulent rechercher eux-mêmes sur Internet leur solution via une FAQ interactive. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisque ça permet aux clients de pouvoir bénéficier souvent de la même FAQ interne mais qui sera filtrée. Donc ça, le self-service, c'est aussi une tendance majeure. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait en pratique comment on va faire pour monitorer le centre de contact par exemple. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer ici tout de suite. Normalement, vous devez voir mon écran. Alors, je vais juste vérifier que ça se passe bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, si vous pouvez juste me répondre par le chat. Oui, parfait, très bien. Voilà, donc ici je vais vous montrer une application donc de monitoring de l'expérience client. Donc on fera la première partie ici avec le monitoring du centre d'appel. Donc ici par exemple, je me connecte, je suis connecté avec le profil du responsable du centre d'appel. Et là qu'est-ce qui se passe? On voit ici qu'aujourd'hui, j'ai un petit souci, j'ai mon avatar en fait, c'est un petit robot, un petit conseiller qu'on a mis dans l'application qui vous donne quelques petits conseils. Il dit oui, tiens, ah ça va pas très bien, on a des petits nuages. On a ici par rapport aux objectifs le décroché qui est à 80 par rapport à un objectif de 90, on est en baisse de 10%, pourtant on a une augmentation des flux d'appels et on a aussi des campagnes marketing qui marchent pas mal. Donc en fait on va regarder, on zoome et on voit là que hop, en temps réel, la fluidité au niveau du centre d'appel est encore en train de diminuer. Il y a un vrai souci. Pourtant, le délai moyen de traitement est de plus en plus important. On voit ici, tac, on passe de 2 minutes 50 en moyenne à 2 minutes 20. On a de plus en plus de contacts. Qu'est-ce qui se passe? On peut aller zoomer et voir ici, ok, ben, on a un vrai souci quelque part. On a pourtant 82% actifs, uniquement 82 agents actifs, ce qui est pourtant bien. On a des campagnes en cours. On a le taux d'occupation de 90% par rapport à 92%. Donc, c'est bon, quasiment tous les agents sont en train de travailler. On a un taux de résolution au premier appel qui est bon aussi. Mais pourtant, en fait, on a beaucoup d'abandons. On voit ici 87 abandons en cours, 458 depuis le début de la journée. Et on voit qu'on n'a pas pris, on a pris à peine la moitié des appels dans la durée à partie, qui était de 90% de décrochés. Là, on a un vrai problème, on a une augmentation du flux. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je vais me dire, OK, j'ai une augmentation du flux d'appels au niveau de mon centre d'appel. J'ai en fait des communications qui sont de plus en plus courtes. Donc peut-être qu'il y a comme ça un afflux d'appels qui vient par exemple par rapport à un problème technique, par rapport à une publicité, etc. etc. D'ailleurs, on l'a eu aussi le cas il n'y a pas très longtemps avec les orages. On a un de nos clients qui a eu, je crois, plus de 200 000 appels qui ont été passés dans une seule journée. Donc un afflux d'appels qui a été extrêmement important. Et donc comme ça, on peut se dire, qu'est-ce que je peux faire? Et là, tout simplement, je vais pouvoir aller soit dans mes campagnes, et me dire, tiens, est-ce que je peux pas aller affecter des agents, par exemple, dans les appels entrants au lieu de faire de l'appel sortant? Là, ici, par exemple, je vois que j'ai deux équipes qui sont en appel sortant. L'équipe numéro 2, elle est en taux d'occupation de 82%, donc ça y est, la campagne marche bien. Mais par contre, l'équipe numéro 1, elle a, il y a toujours les 5 personnes, elle est en taux d'occupation à 52%. C'est-à-dire qu'elle essaye de joindre des gens, mais elle n'arrive pas à les avoir pour des problèmes. Peut-être, c'est peut-être ce qu'on appelle un fond de cuve de l'appel client. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas joignables parce que c'est des gens qu'on a essayé de rappeler 3, 4, 5, 6 fois. Donc je peux me dire, ces gens-là qui étaient ici, je vais peut-être les affecter à l'appel entrant pour que ça passe un peu mieux. Ou alors je vais mettre un message de dissuasion. Voilà. Je peux également monitorer mon centre d'appel. Là, on est plus dans le domaine des campagnes pour voir un petit peu par rapport à des objectifs. Par exemple, un taux d'accord global. Moi, je me dis, tiens, mon objectif, c'est 6% de taux d'accord pour les campagnes sortantes de vente. Et finalement, là, je vois que certaines campagnes marchent mieux que d'autres. Et peut-être cette fameuse campagne de promo de Noël, comme on est en avril maintenant, ça ne marche pas très bien. Et c'est pour ça, en fait, que mes collègues n'arrivent pas à joindre les personnes. Voilà. Donc là, je voulais vous présenter ici le monitoring du centre d'appel pour vous montrer en fait comment il est simple de pouvoir mettre en place déjà des normes, se dire ok, mon objectif c'est d'avoir par exemple 90% de fluidité parce que je sais que ça a un impact réel sur la satisfaction des clients. Ensuite, c'est pouvoir savoir où j'en suis et pouvoir agir. Par exemple, s'il y a trop d'appels, à ce moment-là, je fais un message de dissuasion, etc. etc. Voilà. Alors, je vous ai mis à chaque fois, en fait, à la fin de chaque étape, un plan d'action. C'est-à-dire que je vous recommande un certain nombre d'actions à mettre en place. La première chose, donc pour cette étape numéro 1, c'est tout simplement de définir des indicateurs de satisfaction pour tout ce qui est production. Alors, généralement, comme je le disais, c'est du décroché au centre d'appel. Ça peut être également des délais de traitement pour les emails. Par exemple, on a un de nos clients qui est dans le domaine des assurances. Alors, ce n'est pas le même que tout à l'heure. C'est un des leaders, on va dire, niortais de l'assurance. Et en fait, eux, ils se sont mis des délais pour répondre en fait aux demandes par email et aux demandes par écrit. Et à chaque fois, en fait, ils sont capables de monitorer comme ça et se dire, tiens, voilà, on est pas bon, on répond au minimum à 6 heures, à 8 heures en fait aux demandes par email. Et grâce à ça, ils sont capables de se dire, quel est l'impact sur la satisfaction, quelle est ma rentabilité là-dessus. Donc, se fixer des objectifs clairs et simples sur les indicateurs et mesurer après directement l'impact sur la qualité. Je vous montrerai juste après en fait un petit écran où on peut justement voir selon le temps d'appel la note après qui est donnée derrière en fait à l'opérateur téléphonique. La deuxième chose, c'est tout simplement de former les équipes et si nécessaire de recruter de manière différente. On voit bien quelqu'un qui est au centre d'appel doit avoir de l'empathie, elle doit accepter en fait d'avoir des remarques de clients, mais elle doit surtout être dans l'écoute, on doit vraiment avoir une mentalité pro-client. Donc n'hésitez pas, la formation est vraiment essentielle, ça peut être aussi de la formation à l'écrit, comme je vous le disais tout à l'heure, comme on va le proposer dans le web séminaire du 30. Également, automatiser une partie des actions pour simplifier le contact. Comme je le disais, le chat proactif, par exemple, nous on le fait sur notre site internet. Un chat proactif permet comme ça d'aller directement vers le client. Et nous on le voit, il y a certains clients qui trouvent ça plus intéressant d'avoir un chat que d'appeler au téléphone ou d'envoyer un email. Voilà. Et le dernier point, c'est d'agir rapidement en cas de problème, puisqu'on sait très bien qu'un client insatisfait auquel on ne répond pas un problème va commencer à monter en pression de plus en plus. Et donc comme ça, il faut savoir avoir des procédures en place. Voilà. Alors, il y a Stéphane qui dit « Le client a besoin d'être écouté, cela nécessite du temps et donc contredit l'horloge, notamment dans les centres d'appel. » Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que cette notion de temps d'appel, on nous le demande, hein, nous, on, malheureusement ou heureusement, on s'adapte aux besoins du client. Le temps d'appel est à chaque fois, bien sûr, demandé. Mais personnellement, moi, mon avis personnel, c'est que le temps d'appel ne doit pas être mis au détriment de la satisfaction client. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer? Le client va appeler une fois, on va essayer très très vite, 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 vite son appel. Et après, il va re-rappeler, il va réexpliquer son problème et finalement, on aura passé du temps. Tandis que si on dit au client, voilà, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Est-ce que vous avez d'autres questions particulières? Ça prend certes plus de temps, mais le client se sent plus accompagné. Pour lui, c'est des moments de vérité, des moments parfois où il est en stress et il faut savoir donner une réponse. Alors, exemple d'indicateur en hôtellerie ou en restauration. Alors, il faudrait que vous me disiez, parce qu'il y a, quand même pas mal de différences entre l'hôtellerie et la restauration. À la rigueur, Colette, laissez-moi peut-être un email, peut-être pas dans le chat, mais juste après, et j'essaierai de vous donner quelques petites informations. Alors, comment monitorer les délais de réponse par email? En fait, si vous avez une solution de, comme la nôtre, hein, de gestion des emails, vous pouvez savoir en fait le temps de réponse de traitement. En fait, si vous le gérez à la main, forcément avec une boîte partagée, c'est plus compliqué de pouvoir le gérer parce que vous n'avez pas d'indicateur. Voilà. Bon, je vais peut-être continuer un petit peu. Je vais répondre à d'autres questions un peu plus tard. Je vais juste avancer un petit peu pour que ça prenne le temps de tenir le timing. Voilà, je vais passer au slide d'après. Tac. Voilà. Alors, on avait vu la première étape qui était offrir donc une qualité de service minimum. La deuxième étape, c'est de mesurer l'expérience client à chaud. Alors, qu'est-ce que c'est mesurer l'expérience client à chaud? C'est tout simplement, après une interaction importante, on va envoyer une enquête de satisfaction. Par exemple, on a un de nos clients qui est dans le domaine des télécoms, hein, de l'abonnement mobile et fixe. Qui a un logo rouge, qui n'est pas un logo orange, même si on a des gens qui ont des logos orange aussi. D'ailleurs, je vous l'expliquerai aussi. Donc, ce client qui a un logo rouge, en fait, envoie une enquête de satisfaction après un passage en boutique. C'est-à-dire que la personne passe en boutique, juste derrière, après, on envoie en fait un SMS pour savoir si c'est bien passé ou pas. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de corriger l'insatisfaction éventuelle qui pourrait arriver. En fait, l'enquête de satisfaction à chaud est là pour prolonger une interaction qui se serait mal passée. Un client passe en boutique, il va commander, et puis ça se passe mal avec le vendeur, ou il a l'impression un petit peu de se faire avoir, parce que parfois ça arrive, on passe en boutique, il m'en dit, tiens, ah, finalement, est-ce que j'ai vraiment fait une bonne affaire? Est-ce que c'était vraiment bien? Est-ce que j'ai été bien aidé, bien conseillé, etc., etc. Puis on a un doute, et puis on repart, et puis on se dit, non, mais j'ai peut-être fait une erreur. Et donc, en fait, l'enquête de satisfaction qui se met à chaud permet de prolonger cette relation client qui ne s'est pas terminée et de pouvoir après éventuellement rappeler le client ou mettre en place des actions correctives. C'est important aussi en cas d'insatisfaction. Un client qui par exemple achète un produit ou qui appelle au téléphone, qui se dit bon ok, ben le client m'a donné le conseiller m'a donné une réponse au téléphone, mais vraiment ça ne me satisfait pas, c'est une bidouille, ça répond pas à mes questions, je suis pas content, et après je vais le dire, et si ça a été vraiment très très insatisfait. On a eu le cas il n'y a pas très longtemps, hein, d'un client comme ça qui disait, tiens, je suis très insatisfait, vous essayez de me livrer 3 fois le produit, ça s'est mal passé, je vais jamais commander chez vous, et puis je vais en parler sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, si on en parle sur les réseaux sociaux, ça va monter en puissance, il va falloir après dégager beaucoup plus d'énergie, ça va pouvoir en fait faire un effet buzz qui peut être négatif, surtout si on a affaire à des gens qui généralement se plaignent. Hein. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand le client n'a pas sa réponse ou n'est pas content, bah, il va commencer à aller se plaindre sur les médias sociaux, sur Twitter, et il va essayer d'engager sa communauté pour vous faire réagir. Donc c'est pour ça qu'il faut être plutôt dans le proactif et dire ok, il y a quelque chose qui se passe mal, j'envoie une enquête. Après, cette enquête peut se faire de différentes manières. Je vous donne le premier exemple, comme je vous disais, avec cette entreprise qui est dans les télécoms et qui a des boutiques physiques, qui envoie une enquête de satisfaction par SMS juste derrière, et cela permet en fait de corriger la satisfaction et même détecter parfois des satisfactions. On a un autre client dans les télécoms qui cette fois a un logo orange et qui a aussi des boutiques et pour lequel en fait on a mis en place un système automatique, c'est-à-dire que juste après en fait le passage justement en boutique, le client reçoit une enquête de satisfaction Ça arrive en fait après, une fois que tu as répondu, ça arrive dans un espace de modération. Et donc en fait, soit dans cet espace de modération, les gens répondent si c'est un problème, soit en fait, si le client est content, en fait, l'avis client est publié sur le site de la boutique. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très puissant, puisqu'en fait, vous avez sur le site de la boutique tous les témoignages positifs des clients. Et les témoignages négatifs, bien entendu, sont traités. Si jamais, par exemple, le client envoie un témoignage négatif, ou s'il y a quelque chose qui ne passe pas, par exemple, ça peut être une insulte ou des choses comme ça, on peut même ici dire, tiens, dans l'espace de modération, votre avis intéressant, mais comme il y a une insulte ou comme il y a un message qui n'est pas très bien, on vous propose de modifier pour le publier. Donc bien sûr, le but, c'est pas que publier des avis positifs avec 5 étoiles, mais c'est quand même de pouvoir corriger l'insatisfaction et deux, de pouvoir publier les informations des clients satisfaits. Parce que de plus en plus, les gens vont s'intéresser aux avis des autres clients pour acheter. C'est-à-dire que ce sont vos clients satisfaits maintenant qui vous aident en fait à vendre plus. Voilà. Donc la méthode, c'est tout simplement de choisir les points de contact, les indicateurs, qu'est-ce que vous allez faire, s'il y a un NPS ou un CSAT, hein, une satisfaction client, une note de 1 à 5 qui n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on fait, hein. Et quel est le scénario de traitement, si une note par exemple de 0 sur 5 étoiles, hein, ou 0 sur 5, est-ce qu'il y a un email qui est envoyé à une personne, qui est-ce qui traite cet email, dans quel délai, etc. S'il y a une personne qui met 5 étoiles, est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on va publier cet avis sur notre site internet? Est-ce qu'on va le laisser? Est-ce qu'on va le mettre de côté dans une boîte en fait de clients qui sont contents pour ensuite leur proposer un témoignage de manière automatique ou leur publier ou leur demander de publier leur témoignage sur le site internet, etc., etc. Bref, il faut mettre en place comme ça un système de process. Alors les bonnes pratiques, elles sont simples. C'est simple, mesurer la satisfaction au plus proche de l'interaction et via le canal adapté. Par exemple, on a un client qui est dans le domaine de encore une fois des mutuelles qui fait systématiquement après chaque appel une enquête de satisfaction auprès du client qui a eu le conseiller au téléphone, ce qui permet de vérifier que le client est OK, satisfait, etc. etc. On a un autre client qui a essayé de mettre ça en place. Par contre, ça s'est mal passé. Et pourtant, il est aussi dans le domaine des assurances. Pourquoi, en fait, chez un client A, ce système de notation post-appel du service client s'est bien passé? Et pourquoi chez le client B, il y a une réticence? C'est parce qu'en fait, ça a été mal expliqué. Ça a été mal expliqué parce que les personnes du centre d'appel ont pensé à ça comme un outil de flicage. Or, en fait, il faut vraiment le présenter comme un programme d'amélioration continue et pas comme quelque chose qui va servir à leur taper sur les doigts. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment un aspect de communication à mettre en place. Et chez le deuxième client, qui avait essayé de mettre en place de manière autonome tout seul, on est en train de retravailler avec lui pour faire de la communication et pour expliquer à quoi ça va servir et l'intérêt derrière. Voilà. Donc c'était un petit point de détail. C'est pour vous montrer qu'on est là aussi pour accompagner les clients et que c'est pas forcément évident de dire tiens, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. Ce qui est également une tendance et une bonne pratique actuelle, pour le questionnaire à chaud, c'est simple, on préconise l'utilisation d'un questionnaire extrêmement court, c'est-à-dire une notation généralement en étoile ou en smiley ou en note éventuellement, mais quelque chose d'assez graphique, et ensuite un verbatim. Le verbatim servira à une chose, c'est tout simplement soit en fait d'expliquer la note, hein, tout simplement, soit en fait de pouvoir la publier, soit en fait de pouvoir faire de l'analyse sémantique et pouvoir détecter éventuellement des signaux faibles. Le troisième point, c'est gérer la pression marketing. Le but, en fait, c'est certes d'envoyer des enquêtes de satisfaction à chaud, mais si la personne, par exemple, appelle 4 fois au service client dans la journée, on ne va pas lui envoyer 4 emails d'enquête de satisfaction. Nous, on a un module, en fait, qui s'appelle PopView, qui permet de gérer cette pression marketing, éviter la lassitude, parce qu'autrement, au bout d'un moment, si on envoie trop d'enquêtes, on tue l'enquête. Voilà. Et bien sûr, il faut savoir gérer les ultra-promoteurs et les ultra-détracteurs, c'est-à-dire les gens qui sont très contents et les gens qui ne sont pas contents. Je vous ai mis ici un petit graphique pour vous montrer en fait les différentes sources de l'insatisfaction et en fait l'importance qu'elles ont. Plus on est haut, plus en fait ça va générer de l'insatisfaction. Alors bien sûr, l'insatisfaction assez classique, de basique, c'est qu'il y a eu des changements. Changement des contrats, changement des fonctions, etc. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'effet d'atterrissage. L'effet d'atterrissage, c'est que je viens d'acheter un produit, je l'installe et finalement je suis déçu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut monitorer de manière importante et c'est souvent dans le process de l'écoute à chaud, savoir à quel moment je vais écouter. Ensuite, il y a les sentiments d'injustice. J'ai le droit à une réduction, j'ai pas une réduction, j'ai acheté un produit et finalement, j'ai pas eu la dernière promo que vous avez faite juste après avec 10% de réduction. On a l'interlocuteur non concerné, c'est-à-dire que j'appelle au SAV et j'ai un conseiller qui me parle mal ou qui me répond mal ou qui répond à côté, etc. Et là, je me dis non, mais j'ai appelé au téléphone, on répond n'importe quoi, voilà. Et bien sûr, la contestation, j'ai un problème, je ne suis pas d'accord à ceci, cela. Et ce qui, nous, on a noté qui est vraiment le plus important, c'est l'absence d'écoute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoute sur le client. Le client, il a l'impression qu'on n'écoute pas, qu'il a envoyé un message, ou il n'a pas répondu dans les temps. Et là, ça monte en pression. Et souvent, en fait, c'est ça en fait, qui va faire que les clients ne vont pas, vont plutôt commencer à mettre un bad buzz sur les médias sociaux. C'est cette absence d'écoute ou cet aspect contestation. Donc, il faut savoir en fait gérer ces différents points-là. Alors, en pratique, je vais vous montrer comment on va faire pour mesurer la satisfaction et agir en temps réel. Je vais vous montrer en fait ici, avec notre application encore une fois de monitoring de l'expérience client. Cette fois en fait, je vais me connecter en tant que responsable de l'expérience client. Voilà, je rentre par mon login mot de passe. Et là en fait, j'ai un écran qui est un petit peu différent. Aujourd'hui ici, j'aurai par exemple l'évolution du NPS. En haut, comme tout à l'heure, vous avez votre petit agent intelligent. Hein, vous avez l'agent qu'on appelle Hello, qui est là pour vous donner des petits conseils, pour vous accompagner. Et là, par exemple, là, tiens, on a un petit souci. On a un objectif d'avoir un NPS de 15. Et là, en fait, on voit que le NPS est un petit peu en baisse. Ah, on va pouvoir aller regarder ce qui se passe. Mais là, je vous le montrerai tout à l'heure. Parce qu'on est plus dans une optique en fait de mesure à froid sur la durée, un baromètre. Là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller ici dans mon flux des verbatim. Et là en fait depuis mon application mobile, je vais pouvoir consulter ici les différents sentiments du client. C'est-à-dire que là tiens, je vais voir en fait comme dans Facebook les dernières remontées clients. Ici par exemple Frédéric Vetcan, moins de temps d'attente en magasin, un progrès non négligeable, j'ai enfin pu accéder à mon produit, par rapport à cet appel rien à redire, conseillère sympa, facile joint à redire. Là par exemple ici le code promo ne fonctionnait pas, j'ai dû attendre une heure à la caisse, etc. etc. Donc ici en fait je peux avoir comme sur Facebook, un flux d'actualité avec directement toutes les informations qui vont arriver de mes clients. Donc j'ai une prise directe avec le terrain et je sais exactement ce qui se passe. Et ça c'est vraiment intéressant parce que on va sortir l'expérience client de la sphère des managers, de la sphère des personnes qui sont dans le domaine des études, mais on va vraiment pouvoir le mettre dans les mains de l'entreprise et le mettre au cœur de l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est au marketing produit comme moi pourra accéder au verbatim de des clients qui ont ces produits-là. Je viens de lancer un produit, je pourrais avoir les sentiments des gens. Je suis par exemple commercial, je vais pouvoir également ici voir qu'est-ce qui se passe au niveau de mes clients. Par exemple ici, je suis commercial terrain, je vais aller visiter un de mes clients, je clique ici sur la petite loupe, je vais rechercher un de mes clients, par exemple la société Bâti Armor, et je vais pouvoir ici regarder, ok, Bâti Armor, il y a eu un questionnaire de satisfaction aujourd'hui, il a dit je suis content ou je suis pas content, il y a 2 mois il avait envoyé un autre questionnaire, il disait voilà, j'en ai marre de votre service, il y a quelque chose qui se passe pas bien, blablabla. Donc avant d'aller au rendez-vous, il va pouvoir mesurer comme ça la température de la relation client. C'est-à-dire que il pourra voir si c'est un client qui est plutôt râleur, un client qui est plutôt plutôt sympa, ou si c'est un client qui a eu un problème il n'y a pas très longtemps. Donc là, véritablement, on donne au commercial, on donne à l'entreprise les moyens d'exploiter toutes les études clients. Et ça, c'est vraiment important parce que les données clients, on en a de plus en plus dans l'entreprise. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire et quelle va être l'exploitation. Et si grâce à ça, les commerciaux sont plus efficaces, savent mieux faire face à un client, surtout un client qui n'est pas content, c'est beaucoup plus sécure, c'est beaucoup plus agréable. On pourra également aussi mesurer. Par exemple, ici, tiens, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe pas très bien dans mon entreprise. Eh bien, je peux, par exemple, filtrer ici par les clients détracteurs en me disant, tiens, voilà, qu'est-ce qui s'est passé de négatif dans mon entreprise. Et là, je vois, par exemple, le code promo ne fonctionnait pas, j'ai dû attendre 1 heure à la caisse, il n'y avait plus ma taille alors que votre promo est lancée du 36 au 45. Voilà, cette fois qu'on me dit que la commande est prise en compte, la caissière n'a pas voulu me faire passer de code promo. On voit qu'il y a peut-être un petit souci sur les codes promo actuellement. Peut-être qu'il y a un problème régulier qui arrive, donc qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai les moyens d'agir. C'est-à-dire que depuis l'application, je vais pouvoir dire, tiens, ça c'est un truc intéressant, cet aspect de code promo qui ne marche pas, je l'ai vu plusieurs fois, ça a l'air d'être quelque chose qui pose un souci, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici marquer, le mettre dans ma liste en fait d'action. Et ici, je vais m'ajouter une petite note. Et dans cette note-là, bah, je vais dire, bah, OK, on va peut-être envoyer quand même un email à tous ces gens-là qui ont un problème de code promo. Et on va aussi leur envoyer un bon de réduction supplémentaire. Et j'aimerais bien avoir un suivi. Et j'aimerais bien savoir ce qui se passe exactement. Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on envoie un code promo, on a un souci. Peut-être qu'il y a un point négatif comme ça dans le parcours client ou dans les process internes qui ne vont pas. Et c'est des choses que je dois améliorer. Voilà. Et bien entendu, là on parle du feedback en fait qui descend des clients vers l'entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est également de faire un feedback qui va descendre de la base, enfin qui va monter de la base et qui va monter vers l'entreprise. Et c'est pour ça en fait qu'on a mis également dans cette application mobile la possibilité en fait aux commerciaux terrain, aux personnes qui sont dans les bureaux, d'enregistrer une remontée. C'est-à-dire que directement depuis l'application, qui est diffusable aux commerciaux, aux managers, à l'ensemble des collaborateurs, si la maturité de l'entreprise est là, bien sûr, hein, de pouvoir faire une remontée et se dire, OK, ben voilà, moi je suis par exemple commercial terrain, j'ai visité un client, il m'a dit, voilà, je reviens du rendez-vous chez monsieur Alain Martel, le client avait un problème avec son produit, il a été impressionné par le SAV, ça a été réparé en 2 jours, vous êtes des pros, c'est génial. Donc là, en fait, OK, on dit, tiens, il y a peut-être un client qui est prêt à faire un témoignage client. Ou ça peut être une remontée aussi terrain. Par exemple, je suis commercial, je viens d'aller voir un client et on voit, tiens, il y a un concurrent qui fait une promo là-dessus, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a une réponse à faire ? C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir ici, donc, remonter les données et après, comme pour les verbatim clients, on va pouvoir les afficher. Par exemple, ici, tiens, monsieur Martin Pont-l'Évêque, il est prêt à témoigner. Madame de la Foyette aurait bien aimé pouvoir être appelée le samedi après 19h. Ma facture n'est pas claire, etc., etc. Donc, on peut avoir des remontées du terrain, à la fois des clients satisfaits, des clients insatisfaits, des actions sur la concurrence, etc., etc. Ça permet véritablement de mettre la voix du client dans l'entreprise et à chaque fois, bien entendu, on va pouvoir liker en disant tiens, ça c'est un truc bien, ça c'est j'ai déjà eu la question, on va traiter, ce client-là, on va le mettre dans la prochaine newsletter, on va l'appeler au téléphone, etc., etc. Tout cela en fait permet véritablement d'exploiter l'information client parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus, mais ce qui est intéressant, c'est de faire vraiment un usage intéressant de ces données-là. Voilà. Le plan d'action, il est simple, hein, c'est un, définir les moments clés à mesurer en priorité. On l'a vu, hein, la première commande par exemple, définir le canal de communication, l'indicateur de satisfaction le plus important, mettre en place des procédures de traitement et de contrôle, suivre de manière macro les actions mises en place, et exploiter vraiment les commentaires, par exemple en diffusant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors l'étape numéro 2 sur l'étape 3, c'est d'optimiser le parcours client. Le but, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est identifier les points noirs dans le cycle de vie du client. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe mal? Est-ce que c'est l'avant-vente sur le site internet? Est-ce que c'est, par exemple, la livraison? Est-ce que c'est la première utilisation du produit? Est-ce que c'est le premier appel? Est-ce que c'est la réception de la facture? Est-ce que c'est le renouvellement du service? Etc., etc., etc. Donc, en fait, il faut pouvoir identifier où ça va et où ça ne va pas dans le cycle de vie des clients. Donc, le but, en fait, c'est d'avoir une mesure en continu par l'eau. C'est-à-dire que vous allez pouvoir interroger de manière régulière le client tout au long de son cycle de vente. C'est-à-dire qu'auparavant, on a vu, en fait, une étude one shot, hein. J'ai acheté le produit, je suis allé en boutique, j'ai appelé au service client, etc., etc. Là, on va mettre en place une étude qu'on appelle nous à froid et qui permet de dire au client, bah voilà, vous avez acheté notre produit il y a 6 mois, comment ça se passe maintenant? Donc on est capable de détecter par exemple l'insatisfaction cachée, les clients qui ne sont pas qui ne sont plus satisfaits, qui peuvent vous quitter, etc., etc. On leur donne la parole. Cette étude en fait permet véritablement d'aller. Cette étude qui se fait de manière barométrique permet de savoir aussi les efforts qui ont été faits et l'impact après sur la satisfaction. Donc le but, ce n'est pas juste faire une étude NPS dans l'année en se disant, bah, tiens, voilà, j'ai étudié, voilà. Mais c'est vraiment travailler par lot, c'est-à-dire qu'on a une base, par exemple, de, je sais pas, 10 000, 20 000 clients, hein, et on va en faire, par exemple, 3 000 au premier trimestre, 3 000 au second trimestre, 3 000 au troisième trimestre, etc., etc. Et on va pouvoir comme ça avoir des remontées. On peut également mettre en place des enquêtes au niveau des différents points d'interaction, c'est-à-dire que je vais envoyer à 500, 1000 clients, une enquête sur par exemple tout ce qui est site internet. Est-ce que le passage sur le site internet s'est bien passé? Est-ce que le passage de la commande s'est bien passé? Et on va étudier comme ça un point, un focus, un zoom du parcours client. Et on va dire, bah, est-ce que ça a été dur? C'est ce qu'on appelle le Customer Effort Score. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que ça a été facile ou pas de, par exemple, passer commande? Et vous notez de 1 à 5 et vous mettez un petit commentaire si nécessaire. Et on peut comme ça analyser différents points du parcours client. Et après, une fois qu'on aura fait cette première étude, de pouvoir dire, bah, tiens, finalement, est-ce qu'on a mis en place des actions correctives? Et quelques mois plus tard, est-ce que ça s'est amélioré ou pas? Donc l'évolution, commencer simple, encore une fois, on ne va pas cartographier le parcours client, bah, c'est se dire quels sont les points clés en fait, hein, les points d'interaction majeurs, quels sont les moments de vérité, j'ai dit tout à l'heure. Hein. Commencer très simple et ensuite après on pourra cartographier plus de clients. Je vous donnais le cas d'un de nos clients qui est vraiment avancé au niveau de la cartographie. Il a fait une dizaine de parcours clients qui sont cartographiés avec des enquêtes, etc., etc., avec des différences entre les clients grands comptes, les clients PME qui ont des parcours différents. Et donc, ils ont mesuré ça à chaque fois les différentes étapes et où ça va pas, les points noirs et comment les améliorer. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est assez important. Mais déjà, il faut mesurer les différents points d'interaction. Ça peut être sur un site internet, etc. Donc ensuite, identifier les signaux faibles, ça on le fait généralement avec, soit vous faites de manière manuelle, soit on le fait directement avec un outil d'analyse sémantique qu'on utilise, qui s'appelle le Weak Signal Tracker, qui permet d'identifier les éléments qui sont positifs ou négatifs. Par exemple, un client peut vous dire, j'étais très content du restaurant, mais pourtant la serveuse n'a pas été agréable, et surtout, j'ai eu du mal à me garer. Et donc, nous, on est capable, avec notre outil, d'identifier que bah, le restaurant était bon, mais la serveuse n'était pas bonne et que c'était compliqué à se garer. Et on est capable d'identifier par rapport au sentiment du client, c'est-à-dire, voilà, c'est un sentiment qui est fort, pas fort, c'est quelque chose qui est vraiment très important ou pas en termes de volume, et pouvoir dire, OK, ça, c'est un chantier prioritaire parce qu'il y a un fort mécontentement, il y a une grosse attente. Et au contraire, il y a des choses qui ont... Bah, qui remontent très souvent, mais qui finalement sont pas quelque chose qui ont une très grosse attente, qui ont un très gros impact sur la satisfaction. Et comme ça, on sait quels sont les chantiers prioritaires, quels sont les signaux faibles, c'est-à-dire des choses qu'on entend parler des clients, mais qui finalement, on n'y prête pas attention. Par exemple, on a eu un de nos clients qui est dans le domaine en fait, de tout ce qui est ameublement, et qui s'était rendu compte que y avait certains clients qui étaient très satisfaits, et ils ne savaient pas trop pourquoi. Et en faisant une étude d'analyse sémantique, ils se sont rendus compte qu'il y avait très peu de clients, mais qui étaient très satisfaits, qui disaient, tiens, voilà, systématiquement, quand la personne est venue faire le montage chez moi, en fait, il a passé un petit coup d'aspirateur, il a tout nettoyé, et c'était vachement sympa. Et ce n'est pas tous les vendeurs, enfin tous les livreurs qui font ça, c'est uniquement une toute petite partie. C'est pour ça que c'était un signal faible et c'est quelque chose qui était très petit à voir et qu'on ne pouvait pas détecter aussi simplement que ça. Et pourtant, c'est une très bonne pratique. Et comme ça, ils ont détecté cette bonne pratique et ils l'ont appliquée à l'ensemble après des livreurs. C'est devenu une procédure entre guillemets obligatoire. Voilà. Hop. Alors, en pratique, je vais vous montrer comment on va pouvoir... monitorer et fluidifier le parcours client. Hein. Encore une fois, je vais vous le montrer via notre application, ce qu'on appelle nous le cockpit. Hein. Voilà, ici, on va aller dans le parcours client. Donc en fait, avec les différentes enquêtes de satisfaction qui sont mesurées au niveau des différents points d'interaction, on a la possibilité ici d'avoir, entre guillemets, un GPS de la relation client. Et là, en fait, on voit les points noirs de la relation client. On voit les points... rouge, les points jaunes, et on voit en fait où ça va, où ça va pas. Par exemple ici, c'était une enquête de type CSAT, satisfaction, hein, avec une note, si je me souviens bien, de 1 à 10, c'était une note assez précise en fait, hein. Et on demandait aux clients l'accessibilité, c'était par exemple en magasin, le choix, le conseil, au niveau des achats, etc., etc., etc. Donc là, on avait monitoré, c'était 5 points, mais on peut en avoir plus, hein, sur le parcours client. Et donc, on était capable de dire, OK, ben, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'accessibilité en magasin, le parking, au niveau du choix, au niveau du conseil, au niveau de l'achat, au niveau de la disponibilité de la livraison. Et comme ça, en fait, on peut ici visualiser et se dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé? On peut faire une analyse comme ça par jour, par semaine, par mois, par trimestre, parce que parfois ça peut être lié ça peut être intéressant de voir une évolution dans le temps. Et après, on peut se dire, bah, tiens, c'est important de travailler sur cet aspect conseil. On voit bien qu'on a un souci en magasin depuis quelques temps. Peut-être qu'on a ouvert un magasin en particulier. Ça peut être un magasin qui vient de s'ouvrir à Paris, ou ça peut être un nouveau point de vente, ou ça peut être un nouveau produit, etc., etc. Et on est capable après d'aller dans le détail et se dire, bah, tiens, par rapport à ce magasin-là, par rapport à ce produit-là, par rapport à un critère en fait qu'on aura défini, ben, on est capable de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? On est capable comme ça de pouvoir dire, que pensent les clients? Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on va agir là-dessus? Donc l'analyse du parcours client, c'est vraiment important. Et ça permet comme ça de voir immédiatement qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les priorités. Voilà. Je reviens sur le PowerPoint. Donc, je vais montrer ici l'analyse du parcours client qui se fait de manière vraiment simple. Le plan d'action, il est simple, c'est lister les différentes étapes du parcours client avec des points de mesure. Je vous le disais au départ, pensez simple, n'essayez de pas faire exhaustif. Dites-vous quels sont les éléments les plus importants et menez une enquête sur un lot en fait de vos clients. Identifier quels sont les moments de vérité, ça aussi c'est vraiment important. Souvent, pour un premier client, la première installation, c'est vraiment quelque chose de clé. Et nous, on travaille beaucoup avec nos clients là-dessus, sur ces moments de vérité. Et c'est essentiel de se dire, qu'est-ce qui va vraiment compter? Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est un petit peu lié un petit peu à la mesure à chaud. Mais c'est important de se dire qu'un nouveau client qui a une première commande avec vous, ou une première livraison, ou une première expérience, il faut la monitorer de manière importante parce que, comme je dis toujours, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Voilà. Donc ensuite, mettez en place des indicateurs pour identifier les points noirs, pour voir en fait, par rapport aux actions correctives, qu'est-ce que ça a donné. Et on verra juste après l'impact business. Partagez les résultats et définissez des points d'amélioration prioritaires. Encore une fois, il faut savoir où on va travailler et mettre en place un plan d'amélioration continue. Et surtout, exploiter l'information sur les trois niveaux. Alors les trois niveaux d'information, c'est 1, le niveau opérationnel. C'est-à-dire que j'ai un client qui est mécontent, je l'envoie à mes équipes, elles doivent le traiter dans un délai. Deuxième chose, c'est le niveau d'exploitation managériale, c'est-à-dire que je suis manager d'une équipe, j'ai des remontées qui viennent de manière régulière, qu'est-ce qu'on fait pour détecter par exemple des bonnes pratiques ou mettre en place des actions de formation. Et le troisième niveau, c'est le niveau de la direction, où tout simplement on va voir par rapport au plan global, qui est par exemple d'améliorer l'expérience client, qui est de travailler sur le magasin, qui est de travailler sur le site internet, qui est de travailler sur telle chose. Quel est l'impact des différentes actions qu'on a menées sur cet objectif stratégique-là? Voilà. Alors, on arrive à la troisième et dernière étape de ce web séminaire. Alors, j'ai un petit peu dépassé le timing. Donc, la troisième étape, c'est diffuser une culture client. Parce qu'on sait, en fait, que l'expérience client est quelque part, en fait, un velcro. C'est-à-dire que si vous avez des équipes clients qui sont consciente de l'expérience client, à ce moment-là, ça va accrocher avec des clients. Mais si votre équipe interne n'est pas consciente de l'importance d'avoir une bonne expérience client, forcément, il y aura toujours un décalage et ça ne marchera pas très bien. Donc en fait, il faut véritablement créer de l'adhésion de la part des collaborateurs et des clients. Il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus simple qu'on recommande, c'est ce qu'on appelle nous la symétrie des attentions et de faire de la communication régulière. La symétrie des attentions, c'est tout simplement de se dire, tiens, on va faire une enquête au niveau des collaborateurs et on va faire la même enquête au niveau des clients et on va comparer les deux et voir les dissonances. Par exemple, est-ce que notre offre est pertinente? Est-ce que notre conseil est pertinent? Et on va dire ça en fait au niveau de l'entreprise et on met ça en lumière par rapport à ce que pensent les clients. Et parfois, il y a vraiment des grosses dissonances en disant, ouais, on a les meilleurs produits du monde, non, ou alors au contraire, les gens qui disent, non, on n'a pas les meilleurs produits, si les clients pensent que nos produits sont très bien. Et parfois, c'est bien de redonner un petit coup de lumière là-dessus, surtout au niveau des populations qui sont en contact direct au service client, qui souvent n'ont que le côté négatif des clients qui ne sont pas contents. Or, c'est très bien de dire, tiens, il y a quelque chose qui se passe comme bien pour la majorité des clients. Ce qu'on recommande également, c'est de communiquer sur ce qu'on appelle nous les best failures, c'est-à-dire les meilleures erreurs, les meilleurs problèmes. C'est-à-dire que quand on a un client qui a eu un problème et qu'on a réussi à bien le traiter, par exemple un client qu'on a eu au téléphone qui disait je suis pas content, j'ai eu un problème technique, que la personne du service client a réussi à faire un truc et finalement le client envoie un email derrière en disant bravo, c'est génial, ça marche maintenant. Quand il y a eu un problème, que le problème a été résolu et que le client a été très satisfait, c'est super important de communiquer là-dessus et d'en parler aux différents techniciens, en parler au marketing, etc., etc. Parce que ça met en place une dynamique positive. Voilà. Donc l'enquête miroir, communiquer en interne et en externe et dire que le NPS, par exemple, qui peut être un indicateur de satisfaction, peut être aussi important que le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que Ok, on a un niveau de chiffre d'affaires qui est communiqué, mais aussi on dit, tiens, la satisfaction est aussi de tel niveau, tel niveau, tel niveau. Voilà. Et faire remonter le feedback interne, ça je vous l'ai montré il y a quelques secondes. Voilà. Alors, en pratique, je vais vous le montrer ici via l'application mobile. Alors, je vous ai déjà montré la phase de remontée. Je vais aller de manière très très simple. Donc ici, depuis l'application mobile, là par exemple, j'ai mon petit avatar qui me dit, tiens, il y a ton NPS qui est en baisse depuis 2 jours. Ah, il y a peut-être un souci quelque part. Je peux ici voir la courbe et voir ici donc quelle est l'évolution en temps réel, hein, ou en temps différé, là c'était à la semaine, de la satisfaction client. Je peux voir ici ma répartition en voyant les clients négatifs, les clients positifs sur le produit. Et bien entendu, je peux voir qu'est-ce qui me dit ces clients positifs, ces clients négatifs, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Ça me permet en fait, encore une fois, d'avoir une vision et de savoir ce qui se passe dans le temps. Je peux également aussi faire un suivi des objectifs, hein, au niveau de la qualité de service, l'objectif, le réel, la qualité perçue, le délai de traitement, etc. Et de me dire, bah tiens, finalement, avec un décroché de moins de 2 minutes, bah, ma satisfaction, elle est de 95 par rapport à un objectif de 81. Mon décroché, quand il est entre 2 et 5 minutes, bah, finalement, la satisfaction est de 78 par rapport à mon objectif qui était de 81. Et à plus de 5 minutes, là, par contre, les gens sont très, très insatisfaits et je suis à 50 de satisfaction par rapport à un 81 en objectif. Donc là, ça me permet de décider, de me dire, tiens, finalement, je peux peut-être avoir un temps d'attente qui est légèrement supérieur à 2 minutes. Ça a finalement relativement peu d'impact au niveau de la satisfaction et ça me permettra peut-être de mieux gérer mon équipe ou de faire un investissement en service client qui sera peut-être un petit peu moins important. Voilà. Donc là, c'était la partie pilotage, donc enquête à froid, hein, on n'est plus dans le à chaud, on est dans l'enquête à froid, on est dans le baromètre et on est à la diffusion de l'expérience client. Donc votre plan d'action, hein, c'est mobiliser les équipes sur les sujets et ce n'est pas uniquement un outil des managers, ce n'est pas quelque chose qui vient d'en haut, mais il faut véritablement que les équipes aient conscience que la qualité client, l'expérience client est essentielle. Et nous, notre application mobile, justement, sert comme ça à diffuser soit au top management, soit au manager, soit même à l'ensemble des collaborateurs, parce que ils peuvent accéder également à quelques indicateurs clés et aux remontées clients, même aux commerciaux. Hein, on a des clients qui utilisent notre application mobile pour leurs commerciaux. Donc ça permet véritablement de diffuser une culture client, et ça c'est vraiment essentiel. Et nous à chaque fois, on dit à nos clients qui veulent mettre en place notre application mobile que je vous ai présentée il y a 2 secondes, nous le jour où on se dira on a gagné, c'est lorsque, à la pause café, au lieu que les clients consultent leur Facebook personnel et regardent un peu leurs actus de leurs amis, ils aillent sur notre application mobile qu'on appelle le cockpit et qu'ils aillent tout simplement voir quels sont les avis des clients et qu'ils puissent partager ensemble et qu'ils disent, tiens, là, il y a une remontée client qui est intéressante. Ah ouais, tiens, on pourrait faire ça et plutôt, il faudrait faire ci, faire ça. Donc, c'est important de se dire que l'expérience client, c'est plus une attitude qu'un département. Voilà. Il faut impulser une culture client et donner des outils simples et utilisables par tous. Et diffuser des indicateurs, bien sûr, à l'ensemble de l'entreprise. Voilà. Alors, bon, pour l'aspect ROI, là, j'ai un petit peu dépassé le planning. Donc, je l'ai déjà parlé tout à l'heure, les avis clients servent à attirer des nouveaux clients hein, sur votre site internet, sur les sites d'avis, etc. Faut comparer le coût de perdre un client et le coût de l'irréputation. Capitaliser sur la fidélité pour faire des produits premium, réduire le turnover des équipes service client, mettre en place de l'amélioration continue. On a un petit outil, si ça vous intéresse, on a un outil en fait de calcul du ROI, par exemple, des enquêtes de satisfaction. Là, c'est un exemple simple. Vous avez juste à remplir, par exemple, le nombre de personnes que vous allez interroger, le taux de réponse moyen, le taux des clients très insatisfaits, le taux de conservation des clients insatisfaits qu'on a détectés, le coût d'acquisition. Et en remplissant ces quelques données, en fait, nous, on est capable de vous dire, si vous avez par exemple 5000 clients que vous interrogez tous les mois, vous avez 15% de taux de réponse, vous avez 12% d'insatisfaits, vous arrivez à conserver les très insatisfaits à 70%, votre coût d'acquisition d'un nouveau client, c'est de 90, la marge moyenne d'un client, c'est 200 € par an, le coût d'une enquête, tout compris, temps, solution, etc., c'est 10 000 € à l'année. Finalement, si vous interrogez 5000 clients avec un taux de réponse 15%, avec un taux d'insatisfaction de 12%, ça fait que vous allez pouvoir sauver 63 clients. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir conserver, je crois que ça doit faire 5000 et quelques euros. Et par rapport, comme vous avez sauvé des clients, vous allez en devoir en chercher moins de nouveaux. Donc vous allez économiser des frais sur la prospection. Et donc au final, vous allez gagner en fait 18 000 euros grâce à une enquête de satisfaction. Et entre les 10 000 euros que ça peut vous coûter en temps, en hommes, en solutions, etc., etc. Et les 18 000 euros, finalement, vous allez gagner en marge nette 8 000 euros à l'année. Donc c'est un petit calcul très simple qui permet de présenter à son manager l'intérêt de mettre en place un système d'écoute. Voilà, donc on a dépassé d'un petit quart d'heure le planning. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est que tout simplement la mobilité offre de nouvelles perspectives. Nous, on l'a vu avec notre application mobile de pilotage de la relation client et de diffusion de la culture client, ça fait vraiment la différence. Les gens n'ont plus à installer une application, ça permet vraiment de mettre le client au cœur de l'entreprise, au plus près du cœur, parce que vous êtes sans doute comme moi et vous avez votre téléphone qui est tout le temps à côté de vous. Donc c'est important que les clients l'aient sur eux. On voit qu'on a beaucoup de données, les enquêtes clients, il y en a beaucoup dans les entreprises, mais le problème c'est de savoir comment on va pouvoir les exploiter. Et grâce à une application mobile, le commercial, le manager, le directeur, il a accès à l'information. Le problème, c'est pas avoir l'information, c'est vraiment l'exploiter, la rentabiliser. Voilà. La digitalisation avec les canaux numériques, l'automatisation permet aussi d'aller beaucoup plus loin et tout cela en fait va faire transformer la relation client. Le pilotage de l'expérience client pour nous est vraiment essentiel, vital, c'est votre futur. Il ne faut pas vous faire squatter la relation client. On l'a vu, certaines professions, par exemple dans le domaine de l'hôtellerie, ils n'ont pas su gérer leur relation client. Maintenant, c'est des gens comme Booking, c'est des gens comme Airbnb qui maîtrisent la relation client parce que ces entreprises-là n'ont pas réussi à garder cette relation client. On va encore parler des mots un peu classique, mais dans le domaine du transport, dans le domaine des taxis, là encore une fois, ils n'ont pas su écouter.